comme je disais tout à l'heure, ce qui était hier peut devenir la création de demain. Hein? Donc peut-être que les versicholes qui revenant et contournant le formatage pourront donner lieu à d'autres créations plus atypiques et pourquoi pas plus longues. Alors, comme dans la Grèce antique, les vaugeries avaient lieu aussi, notre nymphe, Da, vient nous parler des vaugeries et du rapport au corps, hein, puisque tu es danseuse avant tout. Hein, voilà.
Merci. Merci Mathilde. Merci Sébastien pour l'invitation. Merci de m'avoir mis à contribution pour la table ronde aussi, pour les modérations. Voilà, donc je vais vous présenter une communication qui s'intitule Bojero, poétique funéraire incarnée et métaphore conceptuelle du corps. Et je m'intéresserai donc à ce rite funéraire qui est propre à la Corse, qui n'est plus aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Et on va se demander ensemble comment son expression rituelle et poétique, principalement qui était portée par des femmes, hein, a servi de vecteur de résistance culturelle face aux normes qui étaient imposées par l'Église et aussi par les autorités. Alors je passerai un certain nombre de diapositives que je n'aurai pas le temps de commenter, donc je vous laisserai loisir ou non de regarder, de lire ce qui est proposé. Voilà, donc ce rite funéraire du Bojero, qui s'appelle aussi Badata, selon les variétés de langue du sud, du nord ou du sud de la Corse, est attesté jusqu'au début de la seconde moitié du XXe siècle précisément, et il s'agit d'un chant improvisé qui est accompagné de gestes ritualisés et de cris, et ce chant est entonné par une femme, Aogeradridge, ou la Badator, à l'occasion du décès d'un proche. Et cette femme, elle est membre de la famille du défunt, ou bien elle est sollicitée pour ses talents d'improvisatrice et de poétesse. Alors, comment se compose le rituel? Il comprend plusieurs éléments qui sont portés par les femmes, principalement, mais aussi par les parents du défunt, d'une danse qu'on appelait abada, takume bada, donc danser, réalisée autour du corps du mort qui est exposé dans ta tôle, donc cette planche qui est sur deux billots en bois. Et au fil du temps, en fait, ce rituel, il change de lieu, donc, c'est-à-dire le lieu évolue. Au départ, il est dans l'église, ensuite il est sur le parvis de l'église et sur la place publique, et ensuite, à mesure qu'il est réfréné, il arrive sur le parvis de la maison pour entrer enfin dans l'espace intime. Donc cette badata, c'était une danse très expressive, marquée par une forte gestuelle, qui traduisait des émotions provoquées par la mort, et elle était accompagnée d'iuskuku ou usbraiu, donc ce cri perçant, modulé, qui était poussé par les femmes en signe de douleur. Et à cela, donc, s'ajoutait uojiru, sachant qu'uojiru, c'est un moyen de nommer l'ensemble du rituel, mais aussi cette partie spécifique du rituel qui est la partie improvisée et chantée. Donc un poème funéraire improvisé, chanté par une pleureuse, hein, comme je vous disais, Aogeradridge Wabadator, qui était une membre de la famille, et plus souvent c'était une mère, ou une fille, ou une sœur, ou quelqu'un choisi pour ses qualités poétiques. Et c'est dans la région de la Rocca et de l'Alta Rocca, donc dans le sud de la Corse, que cette tradition a été le plus longtemps conservée, c'est-à-dire que c'est là qu'on a retrouvé les traces les plus récentes. Alors, quelles sont les contraintes qui ont été exercées sur ce rituel-là, et quelles ont été les évolutions à partir de ces contraintes? Il faut savoir que dès le XVIe siècle, l'Église catholique commence à réprimer fortement ce qui est considéré comme déviant. Donc, par exemple, on persécute des groupes qui sont jugés hérétiques, ou en tout cas qui héritent peut-être de la tradition des Giovannali, qui étaient les hérétiques corses dès le XIIe siècle, qui était une communauté de franciscains dissidents qui remettaient en question l'autorité de l'Église. Et au XVIe et au XVIIe siècle, certains cultes pratiques liés à la sorcellerie, à la superstition, en fait, qui étaient hérités du paganisme, sont visés par des procès en sorcellerie. Et parallèlement à ça, donc toujours XVIe, XVIIe siècle, l'Église cherche à contrôler les manifestations du deuil, et les évêques donc promulguent un certain nombre de décrets pour interdire des expressions trop visibles, trop physiques de la douleur dans l'espace public. Et donc, bien sûr, ces interdits vont peu à peu transformer la pratique du bhajan, qui va se replier progressivement, d'abord dans le fait de contenir le procédé dans le corps, mais aussi va aller jusque dans la sphère domestique, puisque je vous disais tout à l'heure qu'au départ, on était dans des espaces plus ouverts, plus publics. Donc, ça modifie forcément la corporéité et la conception d'un corps maîtrisé donc apparaît. Elle est imposée par les interdits de l'Église et elle est soutenue ensuite par la rationalité, c'est-à-dire toute cette idéologie portée par l'époque des Lumières. Donc face à ces contraintes-là, ces contraintes du macro-social, la motricité traditionnelle du rite funéraire finit par disparaître. Mais il faut noter que la partie improvisée et chantée donc, auprès du cadavre, elle perdure dans les populations rurales. Alors pourquoi on a interdit autant ce procédé? Qu'est-ce que craignait l'Église? L'Église craignait que ce bhajan puisse jouer un rôle de régulateur dans la vie sociale. C'est-à-dire que les femmes avaient, au moyen de ce chant-là, le pouvoir et de l'ensemble du rituel avait le pouvoir de réguler l'ordre social, notamment en appelant à la vengeance dans le cadre de lois coutumières au moyen de ce chant-là. Elle pouvait aussi faire le lien avec l'au-delà, avec le suprasensible, en dehors du pouvoir de l'Église. Donc c'était toute une disposition qui allait à l'encontre et qui remettait en cause le pouvoir de l'Église, qui à cette époque-là cherchait à imposer et à s'imposer pour encadrer le lien au sacré, à la mort et à l'ordre social. Sachant que finalement, je vous disais que le bhajan a continué jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, et que l'évangélisation en Corse est amorcée dès le IIIe siècle. Donc on voit aussi la force des pratiques populaires. Alors, les croyances qui sont liées au bhajan, elles reposaient sur une vision qui est antéchrétienne, dans laquelle la mort est en continuité avec le vivant. C'est-à-dire que les morts agissent sur les vivants, mais les vivants aussi peuvent interagir pour les morts en interprétant leurs signes. Donc il n'y a pas d'intermédiaire, comme peut le faire l'Église, faire l'intermédiaire avec l'au-delà. Et comme je vous le disais, donc cette relation directe entre vivant et mort donne à la famille un pouvoir autonome qui échappe au contrôle de l'Église, et c'est cette autonomie qui dérange et qui fragilise l'autorité. Voilà, donc à ça, là je vous ai mis deux points de vue populaires et comment l'Église voit le rapport à la mort. Donc ayez un corps qui exulte et un corps qui se fige. Donc à ces changements-là, il faut aussi rajouter les changements de mentalité. C'est-à-dire qu'à partir du 19e siècle, il y a un décalage qui se creuse entre la culture traditionnelle corse et la population urbaine qui adopte petit à petit un mode de vie qui émane de la modernité, qui est associé au bien-être. Donc dans ce contexte, la pratique du bhajan devient un marqueur social, c'est-à-dire que ceux qui pratiquent le bhajan, ce sont les gens issus de la paysannerie. La néo-bourgeoisie urbaine ne le pratique pas. Donc peu à peu, les vocératrices se taisent parce qu'elles sont mises en cause par la propagande religieuse, politique et par les valeurs dominantes modernes. Et donc la première chose qui disparaît, c'est la danse funéraire, alors que le chant et le cri se poursuivent et sont attestés. La danse, dès le 19e siècle, il semblerait, d'après les archives, qu'elle est disparue. Alors que le cri et le chant sont attestés par des informateurs jusqu'au milieu du 20e siècle. Voilà. Donc, après disparition des gestes, l'expression passe par la voix et le chant devient de plus en plus chargé et affirme sa fonction de résistance face aux normes religieuses et rationalistes. Et donc on en vient à ce que révèle l'étude de la transcription de ces bhajans. Il y a des bhajans du 19e siècle qui ont été transcrits notamment dans le travail de marquage. Et ce sont des sources précieuses pour un anthropologue parce que ça équivaut, dans le cas d'une anthropologie historique, à des entretiens libres. Et parce que ces chants aussi, bien qu'improvisés, ils suivent des codes, c'est-à-dire qu'ils expriment le deuil, ils expriment donc un rapport à la mort, ils appellent à la vengeance parfois, ils maintiennent le lien avec les ancêtres, ils maintiennent aussi le lien entre les personnes de la communauté, et ils révèlent une vision collective de la mort en continuité avec le monde naturel et avec le monde cosmique. Et donc l'analyse de ces Bodhri montre peu de références à l'abstrait, en revanche, peu de références au sacré, et pas de corps contenant, donc finalement un corps qui est dans une relation diffuse. Et ces les métaphores conceptuelles du corps que l'on peut lire, elles sont celles d'un corps substantiel, c'est-à-dire qui est fait de la même matière que la nature et que le cosmos. Donc ce que Paul Ricoeur appelle des métaphores vives, ce sont des moyens d'établir une osmose entre le corps, la nature et les astres, hein, donc avec tout l'environnement de l'humain. Et ces métaphores vives témoignent d'une écologisation corporelle, comme dirait Bernard Andrieux, c'est-à-dire un lien d'adaptation entre la communauté, la nature et le cosmos. Voilà. Donc pour finir, je dirais que avec le Bodhiro, on est loin d'une vision du corps séparé de l'esprit ou abstrait. Ces poèmes chantés et improvisés expriment une manière de vivre le deuil qui est véritablement enraciné dans la matière du monde. Le corps n'est pas fermé sur lui-même, mais il est poreux, en continuité avec la nature et avec les éléments du cosmos. Et cela traduit une véritable écologisation du corps, c'est-à-dire que l'humain est inséré dans un tissu collectif, cosmologique, et chaque changement, quel qu'il soit, si un changement qui est imposé, notamment par les normes de l'Église, ou du pouvoir, ou un changement climatique, ou voire même symbolique, de regard, ou dans un rêve, chaque changement demande une réponse, une adaptation à travers des gestes, à travers des paroles codifiées, et le Bodhiro témoigne de cette adaptation au fil des siècles. Et ce que relèvent ces poèmes, ce n'est pas un ordre figé, mais un équilibre vivant, toujours mouvant, c'est-à-dire le corps dans ce contexte capte et transmet les variations du réel, et il devient le lieu, l'endroit où on exprime une appartenance au monde dans une forme d'homéostasie, d'équilibre, hein, à la fois culturel, sensoriel et poétique. Pardon. Je vous ai fait quelque chose de très compliqué qu'il faudrait expliquer, donc je passe et je vous remercie.